maison. Maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir.
Vous êtes bien sûr Radio Vassivière.
J'obtiens les meilleures places. Ton désir.
Ici Émilie.
Maman, maman, je préfère à mes jeux fous. Maman, maman, demeurer sur tes genoux.
Élève-toi.
Et sans un mot
avec
dire,
les
entendre
enfants.
Tes refrains charmants.
Une émission pour tous ceux qui s'occupent des enfants, en famille, en milieu professionnel, les parents, les futurs parents, les grands-parents, tous ceux qui ont à cœur d'offrir le meilleur aux enfants et d'apprendre, continuer à apprendre, s'élever, pour qu'ils puissent grandir. Bienvenue pour cette 18e émission de Élève-toi avec les enfants. Aujourd'hui, j'ai un invité. Aujourd'hui, j'ai invité Jacob Vladimir Balga. Bonjour Vladimir.
Bonjour, belle jeune fille. Donc, nous nous connaissons depuis un certain temps maintenant.
Eh oui, c'est ça. Ça fait 12 ans. Non, 11 ans. Ça fait 11 ans que j'ai rencontré Vladimir et qui a été pour moi un enseignant. Enseignant, tu m'as appris beaucoup de choses sur le développement des enfants parce que je suis arrivée, j'étais instit en dispo. Sur la vie, sur la santé, sur le monde, sur l'univers. Et puis avec toi, on va dire, j'ai lâché des gros, gros paquets pour aller de plus en plus vers moi-même. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de t'inviter, Vladimir, pour parler avec toi des enfants et du rôle de l'adulte, des parents et des éducateurs. Et notamment, tu m'avais dit un jour cette phrase qui m'avait bien marquée, c'était « Nous sommes là pour canaliser leur énergie » sans brimer leur subjectivité. Et cette phrase, bien des fois, elle m'est revenue en tête en me disant « Bon, alors là, concrètement, ça veut dire quoi, là, avec les enfants dont je m'occupe ?» Donc, je te propose, Vladimir, que l'on démarre avec cette phrase-là, si tu veux bien m'en dire plus.
Alors, pour en dire quelque chose de plus, il convient de se positionner dans une historicité, c'est-à-dire que, bien sûr, cette phrase, elle est universelle. Beaucoup de sages l'ont dite dans différentes cultures, chacun à sa manière. Mais là, elle se place dans une historicité mondiale, pas que française, où jusque dans les années 60, 70, les adultes brimaient les enfants et les mettaient dans le cadre de leur culture. C'est-à-dire que, par exemple, dans la chrétienté, mais partout ailleurs aussi, la première brimade, c'est par rapport à la sexualité. Touche pas le zizi, touche pas la zézette, c'est sale. Voilà une brimade qui n'encadre pas les pulsions sexuelles, mais qui les brime, ce qui va faire des impuissants, des frigides, des coincés du cul, des psychorigides, des obsessionnels, des phobiques, et tout le cortège de névroses qui va s'en suivre. Voilà une des choses qui est universelle. Bien, quoique, quand je dis universelle, pas vraiment, en fait. Mmh. Il y a quand même des cultures, ce qu'on appelle, nous les anthropologues, des cultures maintenant, on appelle ça traditionnelles. Avant, on disait des cultures primitives, mais bon, le politiquement correct est passé par là il y a 20 ans. Et donc, dans les cultures primitives, on ne brime pas les enfants, on les laisse vivre. C'est une chose importante. Alors, la deuxième brimade, qui est aussi extrêmement importante, c'est le pipi, le caca. Dans les cultures, dans le désert, on n'oblige pas un enfant à aller dans le coin des toilettes, c'est-à-dire dans le trou, là où vont les adultes, dans un coin, voilà. Dans la jungle aussi, les enfants font ce qu'ils veulent. Chez les Inuits aussi, dans la glace, les enfants font ce qu'ils veulent. De toute façon, le pipi, le caca, quand dans l'igloo il fait moins d'eux, ça pue pas, ça gèle très très vite. Donc, dans les cultures traditionnelles, pour les nommer ainsi, on laisse les enfants gérer leur corps jusqu'à ce qu'à un moment, ils s'intéressent à là où vont les adultes faire leurs besoins, dans le trou, au bout des huttes ou du village. Voilà. Et ils s'y intéressent lorsque les sphincters sont en mesure de le faire. Parce que là, nous, dans cet Occident, on demande à des enfants dont le système nerveux et la musculature des muscles lisses n'est pas encore autonome. Et ça fait partie des premières brimades. On demande à un enfant qui ne comprend pas ce qu'on lui demande, à 2 ans ou 2 ans et demi, qui ne comprend pas ce qu'on lui demande, ou qui comprend qu'on lui demande de faire dans le pot, mais il n'a pas les moyens. C'est-à-dire, son système nerveux n'est pas autonome. Le système nerveux des muscles lisses n'est pas autonome. Il ne peut pas gérer ça. Ça, c'est la première pathologie, la première pathologie que l'on met en place dans le corps d'un être, c'est de lui demander quelque chose qu'il ne peut pas faire, ou qu'il ne sait pas faire, avec toute l'humiliation, les brimades, etc. Alors, bien évidemment, c'est difficile lorsqu'on est en Occident, qu'on doit emmener nos enfants à la crèche pour aller bosser, de ne pas s'énerver lorsqu'on lui demande une demi-heure sur le pot le matin, et puis il ne fait pas. Et puis quand on l'a habillé, qu'on lui a mis sa couche, juste au moment où on doit l'amener à la crèche ou à la section enfantine, là, tout est dans le... Voilà. C'est difficile, mais en même temps, ce n'est pas adapté, ce qu'on demande à cet enfant. Et ça commence comme ça, la brimade. La deuxième brimade la plus importante...
La troisième, alors, tu nous en as déjà dit deux.
Dans la demande pour un enfant de lui dire « tu fais à cet endroit-là, dans l'endroit que je te demande et au moment où je te le demande », la deuxième brimade, elle n'est pas uniquement corporelle. C'est l'humiliation, l'agacement des adultes. Lorsque l'enfant ne fait pas, alors on lui demande de contrôler ses sphincters, mais il ne sait pas le faire. Ou il ne peut pas le faire, ou il ne comprend pas. Ou il comprend, mais alors il ne sait pas le faire, et donc on lui demande quelque chose d'impossible pour lui. Et ça va amener un enfant, dans sa structure psychique, à une grande stupeur et une grande inhibition intérieure, quand ça ne dévie pas vers une blessure d'intrusion et d'humiliation qui se termine par une défense masochiste. Une défense masochiste, ça veut dire que chez Reich, pas chez Jung ou chez Freud, une blessure masochiste, ça veut dire, une défense masochiste, ça veut dire que je vais, dans ma structure psychique, mettre les besoins des adultes et ensuite des autres adultes lorsque je deviens adulte au-dessus de mes propres besoins, même si je ne les comprends pas. Et je vais mettre ça comme une tension impérieuse qui va me nier, m'oublier. Alors, ce sont tous les soumis, vous savez, qui arrivent les premiers le matin, qui repartent les derniers le soir, qui tiennent la caisse, qui font les achats, qui gèrent le personnel, qui au bout de 15 ans, ils sont toujours au SMIC. C'est l'être qui ne se respecte pas. Et ces êtres-là, lorsque je les ai en accompagnement, je leur dis, mais tu es l'unique responsable, c'est toi qui crées cela. Si tu vas ailleurs, tu vas trouver le même patron, parce que c'est toi qui crées cette structure et qui émane cela. Et donc, ben, les gens, ils te reconnaissent, ils voient bien comment tu es. Donc voilà, ça c'est une difficulté lorsqu'on va travailler et qu'on met des couches à ses enfants et qu'on veut qu'ils fassent dans le pot au moment où on leur demande, alors que dans les cultures traditionnelles, on ne leur demande pas ça. On ne leur demande rien. C'est l'enfant qui à un moment va être curieux et quand il pourra le faire, lui s'intéressera et ira dans l'endroit où les adultes vont. C'est quand même pas la même chose. Donc, ça commence par le corps, bien évidemment. Ça commence par le corps. Mettre un encadrement aux pulsions, ce n'est pas les inhiber ou les détruire ou les nier.
Oui, alors
c'est mettre un cadre social.
C'est ça, ça serait quoi, canaliser leur énergie à au moment où ils vont toucher leur sexe?
Alors, je ne peux pas donner une réponse universelle parce que je n'ai pas une prétention à l'universalité. Je ne peux parler qu'en tant qu'être subjectif. Si je ne suis ni chrétien, ni hébreu, ni musulman, je peux dire ce que je dis. Si je suis un chrétien, un hébreu ou un musulman, je ne peux pas dire ce que je vais dire là. C'est ça. Voilà, j'entoure quand même ce que je dis de précaution. Si je suis un catho ou que j'ai intégré des normes sociales qui m'ont désintégré, je vais les refiler, je vais les refourguer à ma progéniture. Donc je vais, sans réflexion, taper sur la main et dire « touche pas, c'est sale ». Ou pire que ça, être dans un tel silence vis-à-vis des pulsions, un tel non-dit, que l'enfant va comprendre par lui-même sans que ce soit dit. C'est le pire du pire. C'est-à-dire, c'est l'injonction non dite, c'est la plus puissante de toutes les injonctions. C'est une inhibition par mimétisme, sans parole. Si je ne suis pas moi-même coincé du cul dans le prisme de la chrétienté, de l'islam, ou du judaïsme, il y a toujours le « on touche pas, c'est sale ». Alors, qu'est-ce que ce serait d'encadrer sans inhiber, sans détruire le centre des pulsions sexuelles pour un petit enfant qui n'est pas encore complètement rentré dans la structure langagière et qui s'en fout des trucs des adultes? Il va se focaliser petit à petit sur le monde des adultes et en comprendre les règles, et donc abdiquer à soi-même. C'est vraiment ça le truc. C'est, j'intègre les règles, on crée un surmoi, et je vais petit à petit abdiquer au centre de mes pulsions, apprendre à différer et apprendre à... Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cadrer plutôt qu'inhiber ou détruire ? Ce serait... ce serait laisser faire un enfant tant qu'il le veut. Alors déjà, c'est pas facile d'entendre ça pour tout le monde.
Et oui, ça veut dire n'importe où, n'importe quand ?
N'importe où, n'importe quand, jusqu'à un certain âge.
Ah.
Et puis, quand il peut l'entendre, lui dire, tu vois, observe que tes parents ne font pas ça, que les adultes ne font pas ça, et tu peux pas le faire, tu peux plus avoir la main dans la culotte, comme ça, toute la journée, en jouant, en mangeant, en jouant avec tes joujoux, en faisant du dada, en faisant du vélo, c'est pas possible. Quand tu t'arrêtes, de prendre ton doudou, de sucer ton pouce, et puis te mettre la main dans la culotte, comme ça, devant tout le monde. Donc, tu ne peux le faire que lorsqu'on t'a donné le bain et qu'on te laisse un petit peu seul avec un petit peu d'eau jusqu'au bassin et avec tes joujoux. Là, tu fais ce que tu veux. Et puis, quand on ferme la chambre, qu'on t'a fait un câlin, qu'on t'a raconté une histoire, que t'as raconté ta journée, que voilà, on a échangé quelques mots, voilà, on a massé la tête, le ventre, fait des petits câlins, tu fais ce que tu veux avant de t'endormir.
Donc lui donner un cadre pour dire quand c'est possible, où c'est possible.
Voilà, c'est-à-dire que nous, nos enfants, on les laissait faire. Donc beaucoup de gens qui venaient chez nous étaient très mal à l'aise, parce qu'ils avaient déjà inhibé leurs propres enfants, à 3 ans, 4 ans. Et... évidemment, à 3 ans, un enfant n'est pas assez grand pour aller chercher un morceau de quignon de pain d'une baguette sur la table. Mais à partir du moment où ça a été possible, la première fois que j'ai vu mon enfant avoir la main dans la culotte et ensuite aller chercher un quignon de pain, je lui dis, tu vois, ça, c'est pas possible. Tu fais ce que tu veux. Tu peux garder la main dans ta culotte et te tripoter si tu veux, si ça te détend, parce qu'il s'est passé quelque chose avec les autres copains, les copines, bon. Je vois bien que là, tu es un peu frustré de ceci ou de cela. Donc, pour te détendre, tu mets la main dans la culotte. Mais là, tu ne peux pas aller chercher du pain. Il faut que tu te laves les mains. Et donc, ce n'est pas un interdit, c'est un cadre. Et c'est ça la différence. Voilà. Bon. Et il va s'en suivre la même chose pour toutes les pulsions. Voilà. Tu peux faire un caca nerveux et piquer une colère. Tu as le droit.
Tiens, et si on parlait des pulsions qui arrivent quand le puiné arrive, quand la petite sœur ou le petit frère arrive?
Je reviens sur la colère.
Oui.
On peut faire un caca nerveux, une colère. Mais attention, on va dire à l'enfant, on va pas lui dire avec ces mots-là, mais on a une attitude qui lui dit, tu n'es pas obligé de refouler ta frustration et ta colère. Tu peux la vivre. Mais il y a toujours un retour. C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre ta frustration et ta colère et faire comme si de rien n'était après, sans demander pardon, et sans qu'il y ait un retour, c'est-à-dire une sanction. Ah ben non, si tu fais ça, on n'ira pas au manège, ou on n'ira pas au parc, on n'ira pas, parce que là, ce n'est pas possible dans cet état-là. Donc tu peux te rouler par terre parce que tu n'as pas le truc que tu veux au supermarché, les sucettes ou les vieux paquets de sucettes, tu te roules par terre, ok, tu peux. Voilà. C'est-à-dire qu'on propose à l'enfant de ne pas refouler une énergie de feu avec une frustration. Mais en même temps, on est là pour lui apprendre à différer. Et donc, on lui explique bien, par l'attitude, qu'il y aura toujours une suite. Et que ça se terminera par tu restes seul dans ta chambre et tu ne viens faire un câlin que lorsque tu es prêt à ou prête à faire un câlin, demander pardon et dire voilà. J'ai fait une grosse colère et maintenant c'est fini et on sera biboche. Voilà. Donc, concernant la souffrance terrible d'un enfant qui est aîné, alors, dans l'encadrement de constellations que je pratique, je vois beaucoup d'adultes qui refoulent tellement la conscience de soi, l'agressivité naturelle d'un enfant aîné qui souffre vis-à-vis de la présence de la fratrie et du sororat, c'est-à-dire des frères et des sœurs, que ce refoulement fait partie ensuite de la personnalité et beaucoup d'humains n'acceptent pas de regarder en face. Je suis ambivalent vis-à-vis de mes frères et sœurs. Alors, certains l'assument, il n'y a pas de problème, hein, ça ne le fait pas du tout entre frères et sœurs. Et puis d'autres sont dans un refoulement de se dire « mais non, moi j'aime mon frère, j'aime ma sœur ». Ce sont des menteurs, bien évidemment, mais en même temps, toute l'humanité triche. Hein, pour devenir un adulte, il faut tricher. Un enfant va bien comprendre qu'il ne peut pas être spontané et authentique et qu'il doit, pour devenir adulte, imiter les adultes et devenir authentoque, très authentoque, souvent, dans certaines familles, comme eux. C'est-à-dire, je ne peux plus... Un enfant voit bien qu'il ne peut pas dire ce qu'il ressent, que les adultes ne le font pas, et que s'il le fait, il y a de grands risques de se faire taper sur les doigts, de se heurter au déni des adultes. Il ne peut pas, il voit bien que les adultes n'expriment pas ce qu'ils ressentent. Alors ça, c'est une évidence. Hein. Les enfants souffrent de ça. Hein. C'est l'une des raisons des pathologies fonctionnelles. L'asthme, c'est l'étouffement, hein, j'étouffe ce que je suis, ou les otites à répétition avec l'oreille qui purule, on a beau opérer le tympan, ça se réouvre. Et là, ce n'est pas génétique du tout. Hein. Là, c'est le biologiste qui parle, ce n'est pas l'anthropologue. C'est pas du tout... voilà, quand je vois les parents de ces enfants qu'on m'emmenait en consultation, quand j'étais un jeune accompagnant, un jeune thérapeute, je voyais bien que la voix de fausset des parents était insupportable. La voix de fausset de la mère était insupportable. C'est des voix égrillardes qui trichent, qui mentent, ou dans lesquelles il n'y a plus de contact avec soi. Hein, ce n'est que des poncifs du mental collectif, des normes collectives. Et quand l'adulte n'a plus de contact avec soi, la voix est fausse. Tout est faux. Tout ce qui est dit est faux. C'est que de la projection imbécile. Et il y a des enfants qui ne supportent pas et qui ont... Ça leur casse les oreilles. Comme moi, ça me cassait les oreilles au bout de 10 minutes de consultation. Mmh. Et je le disais aux gens. Je leur dis, je suis un adulte, je pèse 85 kilos ou 90 kilos, et vous faites 45 kilos, madame, et votre voix est insupportable. Imaginez ce que supporte la masse corporelle d'un enfant de 3 ou 4 ans, de 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui fait 8 kilos, 7 kilos, 8 kilos, et qui doit supporter cette voix souffrante, distordue, égrillarde, plaintive, ou faussement, ou géniarde. C'est une chose. Mais lorsqu'un adulte en arrive là, c'est qu'il y a eu un écrasement de toutes les pulsions, du quant à soi, c'est-à-dire de l'oubli, du déni, du reniement de soi, de ses propres prérogatives à vivre. Et il y a une telle injonction de se victimiser, de se soumettre, de se mettre sous, qu'il n'y a plus de contact avec soi. Et l'enfant, lui, va supporter ça, il va devoir imiter ça. C'est forcément avec beaucoup de symptômes. Forcément.
Devoir imiter, tu veux dire, pour se sentir aimé, pour être aimé, il va imiter.
Il va imiter un enfant, va intégrer, lorsqu'il rentre dans la conscience d'un moi et d'un non-moi, petit à petit, et quand il rentre dans la structure langagière, parce qu'avant, de toute façon, ce n'est pas possible, hein, l'enfant est authentique. Avant de rentrer dans la structure langagière, essayez de dire à un enfant de 8 ou 10 mois, ne patouille pas avec ta cuillère dans la soupe, t'es en train d'en foutre partout. Non, on pouvait juste enlever l'assiette et la cuillère, c'est tout. Ne patouille pas avec ton yaourt. Moi, j'étais chez un ami là, le mois dernier, la gamine, elle a 18 mois, elle est dans sa chaise, là, avec son petit plateau. La mère lui donne un yaourt ouvert et elle s'en va. Mais c'est à mourir de rire. La gamine, elle a mis les doigts. Extraordinaire. Elle met le doigt dedans, puis elle essaie de manger avec sa main. Et évidemment, il y en a beaucoup plus partout sur le visage et sur son jabot que dans la bouche. Et puis, à un moment, elle se gratte la tête. Donc, il y en a autant sur la tête. Et puis, voilà. Vous ne pouvez pas lui dire, arrête ça. C'est pas possible. 18 mois. Juste nettoyer la main, enlever le yaourt. Et puis, c'est tout. Et puis, moi, mes enfants, jusqu'à 2-3 ans, j'empêchais pas les pulsions. Je structurais. Votre enfant qui vous demande de la glace et qui ne la mange pas et qui patouille jusqu'à faire du liquide et qui patouille ensuite avec sa cuillère et qui en fout partout, vous ne pouvez que enlever la cuillère et le récipient, c'est tout. Mmh. C'est pas la peine de faire autre chose, de toute façon, c'est pas possible. Il n'y a pas encore d'intégration d'un surmoi, en tout cas d'une instance où l'enfant comprend l'interdit et va jouer avec, c'est-à-dire manipuler comme les adultes. Ça se fait tout ça, dans le temps.
C'est vrai que c'est un piège qu'on observe ça souvent, avoir des parents de jeunes enfants qui vont déjà faire la morale, expliquer plein de règles, être beaucoup dans le mental, faire beaucoup de blabla, alors que les enfants ne sont pas du tout capables d'entendre tout ça, quoi.
D'une part, et puis il y a des enfants qui ont très très bien compris, qui deviennent pervers, qui ont très très bien compris, à 4 ans, ils vous refont le discours. Ils vous refont le discours. Il y a une pub comme ça à la télé. C'est une gamine de peut-être 3 ans et demi, 4 ans, qui annonce les injonctions des parents. Je ne peux pas manger le yaourt en chocolat sans trahir la confiance que maman a mise en moi, mais en mangeant le yaourt en chocolat. Et puis quand dans l'image, lorsque la mère arrive, c'est nounours. Voilà. Donc, les enfants comprennent très très bien comment manipuler, comment tricher comme les adultes, et vont s'arranger entre le besoin impulsionnel et les règles. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être humain ? Mais c'est aussi mammifère. Hein. Les mammifères sont pareils. Les mammifères supérieurs, c'est très intéressant l'éthologie. Les mammifères supérieurs aussi mentent et trichent. Ils savent très très bien faire entre les règles de la horde ou du clan de loups, entre leur centre des pulsions et les règles établies, puisque les animaux sont dans des sociétés extrêmement complexes, comme les humains, où il y a un cercle de pouvoir, un premier cercle de pouvoir, un être de pouvoir, un premier cercle, un deuxième cercle, un troisième cercle. Et quand on est dans le cinquième cercle, la possibilité de vivre des pulsions se restreint énormément. On n'a pas le droit de copuler, il n'y a que les dominants qui copulent. Ils le font quand même, hein, mais en trichant. Mmh. Et donc, ce sont les premiers qui mangent, même si ce n'est pas eux qui ont chassé. Mais il y a toujours un être qui va tricher, qui va essayer, quand on se retourne, d'aller prendre un morceau, et évidemment qui va se faire mordre. Donc, là, il ne s'agit pas que de l'humanité, il s'agit de la vie mammifère, en fait. Et j'élargis exprès. Mmh. Il y a la vie mammifère avec les pulsions, et il y a un cadre à poser pour... éviter qu'ensuite un adulte puisse vous mettre un couteau sous la gorge en vous disant « tu me donnes ta carte bleue ou sinon je te tue ». Moi, quand j'étais un jeune éducateur, il y a 40 ans, j'ai reçu l'aide sociale à l'enfance, on nous a envoyé des enfants comme ça, qui a 14 ans ou 15 ans, et les parents n'avaient mis aucun cadre, et le gamin s'est retrouvé à la DAS parce que ça a terminé qu'il s'est su que le découvert des parents, c'est parce que l'enfant il mettait le couteau sous la gorge en disant « tu me donnes ta carte bleue ». Voilà. Donc
ne pas brimer, mais poser un cadre quand même.
Alors, voilà, c'est poser un cadre strict. Et dans ce cadre, il y a un certain moyen d'exprimer un certain nombre de pulsions jusqu'à un certain moyen. Mm-hmm. Et c'est un équilibre. C'est un équilibre. Et les adultes que j'ai reçus et que je reçois encore et qui sont extrêmement inhibés et soumis, c'est une éducation stricte et sévère et un empêchement de tout de la part des parents qui eux-mêmes étaient des psychorigides empêchés de tout.
La génération d'avant, et un peu par réponse, cette génération-là a pu prendre un peu le contre-pied et en ne voulant plus brimer, on oublie aussi de canaliser canaliser l'énergie et poser un cadre qui va permettre la structure.
C'est intéressant parce que l'énergie sexuelle, les psychanalystes le disent depuis très longtemps, l'énergie sexuelle, le pipi, le caca et l'argent, c'est la même chose. C'est du flux. C'est du flux. L'argent, c'est du sang social. Donc, effectivement, il y a quelque chose... nous, les sociologues, les anthropologues, les psys, on voit bien qu'il y a un problème social. C'est que beaucoup de... Par exemple, d'entrepreneurs disent les jeunes ne veulent plus... Ils ne veulent plus apprendre un métier. Ils veulent un job vite fait, mal fait, pour recevoir de l'argent. Et leur but n'est pas l'idée de faire un truc et de ressentir la joie, le plaisir d'un travail bien fait, mais d'attendre la paye à la fin du mois, ce qui n'est pas le même état d'esprit. Ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Alors revenons à la fratrie et au sororat, parce que c'était ça le sujet.
C'est ça.
La fratrie et le sororat, c'est à partir du moment où on est est né, et ça c'est mammifère, on le voit chez les animaux, hein, chez les, voilà, dès qu'il y a, même chez les animaux domestiqués. Alors, c'est fait exprès que je botte en touche et que je parle des animaux, c'est pour créer une distance. Mais c'est valable pour nous. Dans une portée de chiots, la mère a 10 tétons, elle a 6 chiots, il y a un gros bêta qui va empêcher les autres de manger, en tout cas certains autres. Et puis, le plus faible va être empêché de manger. Ce qui fait qu'au bout de 3 mois, tous les gens qui ont des portées l'ont vu. Il y en a un qui fait 1,5 kg de plus que les autres et un qui fait 1,5 kg de moins que les autres. La mère a bien 10 tétons, mais elle laisse faire parce qu'elle sait très très bien que dans la nature, le plus faible ne survivrait pas. Bien, nous sommes des humains, nous ne laissons pas les choses se faire. Alors on va prendre le chiot puis on va le biberonner. Hein, on va empêcher le gros chiot lorsqu'il s'endort, on va le mettre de côté et puis on va laisser celui qui n'arrive pas à manger parce qu'il est empêché d'aller trouver un téton où il y a du lait. Bon. C'est comme ça pour l'humanité aussi. C'est-à-dire que je suis aîné, je sais de quoi je parle.
Moi aussi.
Je n'ai pas supporté l'arrivée de l'enfant après moi et du deuxième et du troisième, etc. Et parce que je suis clair avec moi-même. Moi, j'étais clair quand j'étais enfant. C'est pour ça que je suis à ma place. J'étais clair, je ne refoulais pas. Et donc, alors il y a des adultes qui vous disent non, mes enfants, ils aiment beaucoup l'aîné ou l'aîné et eux, ils aiment beaucoup le prendre dans les bras, etc. Je dis non, c'est une formation réactionnelle parce que vous l'empêchez d'exprimer son agressivité. Mais il y a forcément une ambivalence. Lorsque l'enfant paraît, le deuxième, c'est un clin d'œil à Françoise Dolto, lorsque l'enfant paraît, c'est le titre d'un de ses livres, phare, il y a une souffrance, une ambivalence, une jalousie de la part du petit enfant de 2 ans ou de 3 ans qui voit quand même un salaud, une salope, quoi. Et c'est un mot gentil, hein, ça. Qui voit une ordure, qui voit... Il n'y a pas de mot à ces âges-là. Mmh. Mais ils ressentent une affliction, une souffrance terrible. Il y a quand même quelqu'un qui prend leur place dans les bras de maman.
Est-ce qu'il y a un âge où c'est pire pour l'aîné? Est-ce que c'est pire quand il a 2 ans, 3 ans,
non, de ressentir ça? Individuel. C'est-à-dire que plus l'enfant a besoin des bras de maman... Et plus c'est difficile. C'est évident qu'un enfant de 5 ans aussi souffre et va avoir des attitudes. Vous savez, il y a des gens qui trichent et qui ne veulent pas entendre ça, hein, qui sont dans la pire des pathologies de l'humanité qui s'appelle le déni.
Vous êtes sur Radio Vassivière, vous venez d'écouter la première partie de la 18e émission de « Élève-toi ».
Avec les enfants.
Un entretien avec Jacob Vladimir Balga, anthropologue, psychophysiologue, superviseur de praticien, qui a beaucoup de choses à nous dire sur sa vision de l'humain, de la société, et tout ça. Et en fait, la suite va continuer sur le site. Donc, pour écouter la suite de cette émission, où notamment il va nous parler de la fratrie, allez sur le replay de cette émission et vous trouverez en lien la suite. Il y a une vingtaine de minutes encore à écouter. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de Radio Vassivière.